À deux jours du réveillon, l'instant M se met au fourneau.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Bienvenue à tous. Ce matin, on met les petits plats dans les grands et on sort les bulles. Le champagne est un personnage de série télé, à en croire Romain Digita qui est de retour pour sa chronique. Il sera question ce matin d'une série britannique absolument culte, darling. Et pour le menu, on allume la télé. Vous vous souvenez de Raymond Oliver et Catherine Langeais, de Maïté qui embrochait les cochons avec enthousiasme, de Laurent Mariotte. Les émissions de recettes sont un genre à part sur petit écran. Elles sont surtout un marqueur de leur époque depuis les années 50. C'est une histoire qui raconte l'évolution des relations entre les hommes et les femmes, la place de la cuisine dans les foyers aussi, et la place du patrimoine régional sur une antenne nationale. Un historien qui a avalé des heures d'archives sur le sujet sera mon invité dans quelques minutes.
L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Romain Digita est de retour. Bonjour Romain.
Bonjour Dorothée.
Il est là tous les matins de cette semaine dans l'instant M pour se poser une question vraiment essentielle. Quels sont les personnages de séries télé qu'on doit inviter pour un réveillon réussi?
Et qui dit repas de réveillon dit champagne, un poste crucial en cette période de fête qu'il faut confier à des personnes qui connaissent leur affaire. Vous devez donc absolument inviter Eddie et Patsy, les héroïnes folles dingues d'Absolutely Fabulous. Dans l'onde des séries, un bouchon qui saute, c'est le signe qu'Eddie et Patsy ne sont pas loin. Ces deux parasites du milieu de la mode londonien sont la décadence faite femme. À côté d'elle, Sue Ellen est une publicité vivante pour l'eau de source. La bouteille de champagne est à Patsy ce que le couteau suisse est à MacGyver, un accessoire indispensable qui permet de se sortir de toutes les situations. Ce n'est pas pour rien si Eddie est un véritable distributeur de bouteilles de Bollinger dans sa cuisine. D'ailleurs, le cri de ralliement des fans d'Abfab n'est-il pas champagne fort Lulu?
Ils sont très forts en placement de produits également. Une vraie série culte en tout cas qui dure depuis 1992.
Avec une quarantaine d'épisodes et des téléfilms spéciaux. Alors on y retrouve Eddie, qui est une ancienne hippie reconvertie en chargée de relations publiques ultra cynique. C'est aussi une mère totalement irresponsable et immature. Aujourd'hui grand-mère, elle considère sa petite fille comme un accessoire de mode so chic, sweetie darling. Patsy est son amie d'enfance, elle occupe un poste indéterminé au sein d'un magazine de mode. Froide et méchante à la Anna Wintour, c'est la bad cop du duo. Les deux sont aussi inséparables qu'une bouteille de vin et un tire-bouchon.
Bon, cette année, il faut vraiment les inviter chez vous pour réveillonner car elles ont besoin de se changer les idées.
Oui, car la France, leur pays de cœur, leur a fait un véritable affront. Après la fin de la série Absolutely Fabulous, le film est enfin sorti dans les salles hexagonales il y a 3 semaines.
Ah bon ?
Vous n'en avez pas entendu parler ? Bah non, comme personne, c'est normal. Il n'est sorti que dans une poignée de salles, ce que l'on qualifie pudiquement de sortie technique. Alors le pays de Christian Lacroix et Jean-Paul Gaultier, deux des icônes de Patsy et Eddie qui les traitent comme un vulgaire film de Steven Seagal, voilà qui n'est pas vraiment fabuleux. Raison de plus pour les deux copines de noyer leur chagrin dans les bulles.
Donna, where's the champagne?
I don't know.
Donna, where's the bonnet? Where's the champagne?
If you want things, you have to pay for them.
Since when?
Depuis quand on doit payer pour avoir des choses? Eddie et Patsy, toujours à la recherche de champagne, même au cinéma donc.
D'autant que ce film a été tourné chez nous, sur la Côte d'Azur. Eddie et Patsy sont en fuite après avoir tué accidentellement la top modèle Kate Moss. Le cinéma français et Abfab, on peut vraiment parler d'une histoire maudite. Alors si vous voulez que votre repas se passe bien, surtout n'évoquez pas devant elle le film absolument fabuleux.
Aye.
Ce film français de 2001 avec Josiane Balasco, Nathalie Baye et Chantal Goya. Ça se voulait une adaptation officielle de la série et au final, ça n'était qu'un nanar franchouillard, vulgaire et criard. Comme si on voulait faire passer un pétillant californien pour un champagne d'origine contrôlée.
On l'a compris, vous avez préféré le cru 2016 au cru 2001.
Je rappellerai tout de même que l'alcool est à consommer avec modération, contrairement aux séries télé, sauf si c'est Joséphine Ange-Gardien, parce que là, c'est la cirrhose du cerveau assurée.
Bon, on peut compter sur Eddie et Patsy pour apporter beaucoup de champagne. Et d'ailleurs, parmi les répliques cultes de la série, il y a celle-ci, hein, le dernier moustique qui m'a piqué, eh bien, il a atterri aux urgences. Merci beaucoup Romain Digita. Vous revenez demain pour la dernière touche à ce casting idéal. À demain.
À demain.
Dorothée Barba, l'instant M.
Et oui, pour Stéphane Ronxin qui réalise l'instant M, les émissions de recettes à la télé, ça évoque les Muppet Show et leur inimitable chef suédois. Moi, ça me ferait plutôt penser à ça.
cuisine matin.
Michel, quel plaisir de vous retrouver.
Eh bien, bonjour, William, quel plaisir de vous retrouver.
Ça sent bon tout ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Michel?
Eh bien, c'est une surprise, bien sûr. Alors, hier, nous avons vu ensemble le céleri rémoulade au Jurançon. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation du fameux hachis parmentier.
Ah.
Hachis parmentier qui fait le régal des petits comme des grands.
Bien.
Alors, pour le hachis parmentier, deux éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et...
Le parmentier.
Le parmentier, un brin d'humour, ne fait jamais de mal.
Youpi matin, chez les inconnus, bien sûr. Très important l'accent quand on parle cuisine à la télé. Bon, plus sérieusement, les émissions de recettes, à ne pas confondre avec les concours culinaires, hein, qui sont aujourd'hui omniprésents à la télé, mais beaucoup plus récents, eh bien, ça incarne un genre télé passionnant pour qui veut raconter les évolutions de la société française. C'est ce que propose Olivier Roger dans un livre aux éditions INA, La cuisine en spectacle. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Alors, c'est vraiment un objet d'histoire, l'émission de recettes. Certains ont dû trouver ça un peu incongru.
Oui, alors, ça peut sembler très incongru. Déjà, s'intéresser à la télévision en histoire, ça paraît souvent incongru parce qu'on se demande si on a plutôt envie de regarder la télévision que faire vraiment de l'histoire. Et alors, quand on parle de cuisine, c'est encore pire. Parce
c'est pas
que,
sérieux.
Parce qu'évidemment, un extrait de JT, on comprend bien que ce soit un document historique, mais une émission de cuisine, ça paraît tout de suite un peu plus discutable. Mais pourtant, si on regarde ces émissions avec quelques questions intéressantes en tête, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de choses intéressantes à nous dire, à la fois sur le plan de l'évolution de la télévision, où on voit une évolution très grande des formats, des programmes, et en même temps sur l'évolution de la cuisine elle-même, parce que bien sûr, on ne faisait pas les mêmes plats en 1950 et 1960 qu'aujourd'hui, où on a des préparations très différentes.
Sur la place de la cuisine dans les foyers, on va y revenir. Alors vous vous penchez sur un demi-siècle d'archives, hein, depuis les années 50, et vous montrez notamment comment chaque émission doit tenir compte d'une perpétuelle tension entre pédagogie et dramaturgie, parce qu'il faut bien expliquer la recette, mais il faut que ça soit du spectacle aussi. Et d'ailleurs, la première émission a été confiée à un comédien qui s'appelle Georges Adet. C'était une figure des dramatiques dans les années 50.
Absolument. Donc ça, c'est une émission qui est très peu connue parce que Raymond Oliver ensuite a éclipsé le succès de cette émission. On va en parler. Mais donc, cette première émission, c'était l'idée vraiment de faire un divertissement. C'était une émission qui avait été pensée comme cela. Elle était diffusée le soir à 20h30 et on avait l'idée de faire la cuisine à un acteur qui se devait d'être drôle et qui devait donc être assez impertinent. Et en même temps, cette émission n'a pas connu un très grand succès, parce qu'on s'est rendu compte que cet acteur était pas du tout doué pour la cuisine.
Il coupait les oignons dans sa main, même pas sur une planche à découper.
Voilà, il avait pas du tout des pratiques orthodoxes ou professionnelles, et du coup, voilà, ça a créé un grand décalage entre, à la fois, on voulait montrer qu'il était gastronome, mais en réalité, il savait pas trop se dépêtrer de ses casseroles, et même ses blagues étaient considérées comme pas très drôles, donc l'émission n'a pas fait long feu.
Ça s'appelait les recettes de Monsieur X. Il est effectivement remercié et remplacé par le fameux Raymond Oliver, 3 étoiles au grand Véfour. Alors Jean Darcy, qui était directeur des programmes à l'époque à l'ORTF, décide qu'il faut une femme pour, je cite, « meubler les blancs ». Et ce sera la speakerine Catherine Langer.
Cette bûche est splendide, mais je vais être seule à la manger. Je voudrais tout de même que nos spectateurs sachent comment on la fait. Pouvez-vous nous le dire ?
Bien sûr, je vais même vous la faire.
Alors, vous allez nous la faire sous les yeux ?
Sous les yeux.
C'est assez rapide ?
Mais oui.
Oh là là, pourtant, c'est si beau. Quels sont les ingrédients qu'il faut alors pour faire cette bûche ?
Eh bien, pour faire cette bûche, il y a deux choses principales, enfin deux choses essentielles, pour ainsi dire. C'est la génoise et la crème au beurre. La génoise, nous allons vous faire voir comment elle se fait. Elle se fait avec du sucre, des œufs et de la farine. On y ajoute habituellement du beurre également. Mais ça serait un petit peu compliqué pour des débutants, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui.
C'est pour combien de personnes ?
C'est environ 4 personnes. Une bûche de 4 personnes. Voici, on met d'abord le sucre, puis... les œufs.
250 grammes de sucre.
250 grammes de sucre. 4 œufs.
D'abord 4 œufs.
4 œufs.
Car je vois que vous en avez préparé beaucoup.
Ah oui, ça c'est en cas.
Oui, ça c'est un cas. Ils sont d'ailleurs tous les deux en couverture de votre livre, hein, Olivier Roger, Catherine Langer avec une très belle choucroute sur la tête d'ailleurs. L'émission s'appelle Les recettes du chef, puis Art et magie de la cuisine. Ce qui est intéressant, c'est la répartition des rôles entre Langer et Oliver. Est-ce qu'on peut y voir un témoignage du rapport homme-femme dans les années 50 et surtout de son évolution ensuite ?
Alors bien sûr, on peut y voir un témoignage de ces rapports homme-femme, mais il faut voir que les relations tiennent aussi à une posture d'autorité. l'autorité qui est celle du chef. Donc Raymond Oliver est à la fois le grand chef, ce qui explique que ce soit lui qui fasse la leçon à Catherine Langeais, qui représente plus ou moins les téléspectatrices. Mais en fait, on voit bien que au-delà de ça, il y a vraiment une relation homme-femme qui est hiérarchisée, parce qu'en plus d'être chef, Raymond Oliver montre bien qu'il est un homme, donc il fait une cuisine qui requiert plus de force, une cuisine assez spectaculaire, etc. Face à Catherine Langeais qui observe de manière un peu béate, qui est un peu,
c'est peu de le dire,
qui est assez voilà face aux grandes performances faites par le chef. Et d'ailleurs à cette même époque, Raymond Oliver en 1960 a lancé une émission qui s'appelait La cuisine pour les hommes, donc une cuisine spécifiquement masculine, ce qui montre bien qu'il y avait cette idée que les hommes et les femmes ne devaient pas cuisiner de la même manière.
Et d'ailleurs les hommes cuisinent pour le plaisir, hein, surtout pas de manière quotidienne.
Voilà, absolument. Donc dans cette émission, Raymond Oliver dit bien que pour les hommes la cuisine c'est une récréation, donc c'est une cuisine éventuellement le week-end avec des recettes un peu spectaculaires et un peu plus original que d'habitude. Et tout cela évidemment a évolué. Si on regarde aujourd'hui tous les concours culinaires, on voit que les hommes et les femmes sont relativement à égalité, et finalement aujourd'hui on arrive à l'idée que tout le monde cuisinerait pour le plaisir, et c'est en cela que les rôles des hommes et des femmes seraient plutôt équivalents.
Il faut rappeler qu'on a une époque où les jeunes filles reçoivent des cours d'enseignement ménager à l'école. Alors Raymond Oliver quitte les écrans en 1968 et aucune émission de recettes de cuisine n'est ensuite diffusée pendant 8 ans, vous le dites dans votre livre. C'était trop conservateur, trop en décalage avec l'esprit de mai 68.
Alors oui, alors ça c'est une des hypothèses, donc on n'a pas d'explication nette de ce qui s'est passé, mais donc évidemment l'idée que l'émission de cuisine apparaissait comme quelque chose de trop conservateur par rapport à toutes ces aspirations féministes joue. On peut aussi penser que Raymond Oliver avait tellement marqué les émissions de cuisine, ça faisait 14 ans qu'il était à l'antenne toutes les semaines pour présenter une recette, que ça a été un peu difficile de lui trouver, je pense, un remplaçant qui était à la hauteur, vu la personnalité très forte de Raymond Oliver, et que du coup on a un peu délaissé les émissions de recettes qui sont ensuite revenues un peu plus tard.
Il y aura ensuite La Grande Cocotte sur TF1 à partir de 76, Bocuse ou Trois Gros qui sont les participants réguliers, et puis l'entrée en scène du fils de Raymond, Michel Oliver, sur TF1 puis sur Antenne 2. Alors il est cette fois en jean et chemise, hein. Il n'est pas en tenue de chef. L'idée c'est de ne pas mettre de barrière avec le public. C'est un chef devenu amateur pour être animateur, c'est ce que vous écrivez, Olivier Roger.
Oui, donc ça évidemment le fait qu'il ne se présente pas comme chef, ça change tout, parce qu'on le voit faire la cuisine à l'écran comme il ferait la cuisine à la maison, alors qu'avant on avait, comme je le disais, les performances du grand chef qui apparaissaient en tant que tel, qui faisaient une cuisine qui n'était pas du tout la cuisine adaptée à ce qu'il appelait les ménagères. Donc là, Raymond Oliver, par contre, fait la cuisine comme à la maison. Il fait la cuisine entre copains, ce qu'il dit parce que une des spécificités...
Non, c'est
de
Michel,
son...
là. Michel
Oliver.
Le fils, c'est compliqué. C'est la saga.
Michel Oliver, lui, cuisine entre copains parce que une des nouveautés aussi, c'est qu'il cuisine avec des hommes, avec ses acolytes masculins. Et donc là, on a un rapport tout à fait nouveau à la cuisine. Des recettes qui ne sont pas des recettes de restaurant, qui sont des recettes adaptées, la cuisine du dimanche, la cuisine familiale. Et donc, c'est un tout nouveau type d'émission qui apparaît alors.
Michel Oliver a un accent du sud-ouest, et c'est important l'accent quand on anime une émission de cuisine à la télé.
On a des coquilles Saint-Jacques toutes fraîches, toutes belles. Nous avons des tomates, nous avons des palourbes, des belles huîtres, après il y a des échalotes toujours pareilles, du thym, du laurier, de l'huile, du vinaigre, ça bien entendu, des coques, des petits crabes, et voilà.
Ben c'est très bien, sauf que moi je savais pas que ça c'était des huîtres, Maïté. Moi j'appelle ça plutôt des moules.
Ah, j'ai dit des huîtres.
Eh oui, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous croyez?
On recommence. Allez.
La cuisine des mousquetaires avec l'inénarrable Maïté. Alors l'ambition des émissions de recettes à la télé, c'est aussi à partir des années 80 de faire connaître une région par sa cuisine.
Voilà, et donc ça c'est aussi lié au fait que à cette époque se développe FR3, la chaîne régionale, et du coup voilà, on a la volonté de proposer des programmes régionaux qui parlent des régions, et la cuisine apparaît alors comme un excellent moyen de faire connaître l'identité régionale, de la promouvoir, et donc c'est ainsi qu'est née à l'origine la cuisine des mousquetaires, l'émission présentée par Maïté et par Micheline, qui était une émission de France 3 Aquitaine pour France 3 Aquitaine, mais devant le succès que ça a rencontré, c'est passé ensuite à l'antenne nationale avec tout le succès qu'on lui connaît.
Alors le succès est assuré notamment par un choc des cultures, hein, entre la paysanne des Landes et Micheline, la grande bourgeoise parisienne. C'est la première émission de cuisine à être diffusée tous les jours, c'est pas un détail, et c'est aussi la première dont le succès, disons, est lié à un regard un peu ironique, notamment avec des séquences diffusées au zapping.
Oui, absolument.
On se moque un peu de Maïté. Ça fait partie du jeu.
Oui, tout à fait, parce que l'émission de Maïté à l'origine, elle n'était pas du tout comique, c'était pas du tout conçu comme ça.
Pourtant, on assomme des anguilles, mais
voilà. Mais ça a rapidement été vu ensuite comme comique, parce que notamment voilà le rôle du zapping de Canal+ qui a diffusé plein de séquences qui sont apparues très incongrues et qui ont créé cette posture comique. Mais au départ, on était vraiment dans une émission qui était une émission de fin de matinée, donc sur FR3, donc un public plutôt âgé. Et c'était pas la volonté, c'était vraiment de proposer des recettes et pas de faire une émission comique.
Longévité exceptionnelle ensuite pour Bon Appétit, bien sûr, de Joël Robuchon. Et puis en 2005, bien sûr, c'est l'arrivée tonitruante de Cyril Lignac sur nos petits écrans. Alors avant de se lancer dans les concours entre cuisiniers amateurs, Lignac, il a animé des émissions de recettes également, avec un style beaucoup plus familier. Il est coach finalement, Lignac, et ça montre que la cuisine devient quelque chose de valorisation de soi, d'expression personnelle. La cuisine devient un loisir finalement.
Oui, alors la cuisine devient un loisir, et donc ce qu'on voit notamment dans les émissions de Cyril Lignac, c'est que le développement de ces émissions est contemporain du développement des cours de cuisine que l'on va prendre pour le plaisir et pour parfaire sa technique auprès des chefs. Et donc ça, c'est vraiment une pratique de loisir, et en même temps on voit bien, comme vous le disiez, que c'est la volonté de se valoriser, parce que bien faire la cuisine, c'est se faire bien voir, servir à ses invités. Et aujourd'hui, ne pas savoir faire la cuisine, c'est quand même presque un handicap social.
Ouais.
Donc, non mais du point de vue de ces émissions, du moins, et donc on a vraiment l'idée que pour se dépasser, pour montrer de quoi on est capable, il faut réussir à faire un beau repas. Et donc pour cela, on va prendre des leçons auprès d'un coach, donc que ce soit le chef Cyril Lignac ou Sophie Dudemaine et Julie Andrieux à la même époque sur TF1.
Alors faire la cuisine en buvant un coup, c'est toujours plus sympa, et c'est le créneau de Monsieur Poulpe avec ses recettes pompettes.
Salut André.
Salut Monsieur Poulpe.
Je suis trop content que tu sois là.
Je suis trop content, surtout que j'ai passé une semaine de merde. Là, on va se déchirer la gueule. Hein, c'est ça le truc.
Ouais, enfin, on va surtout faire une émission de cuisine, on va faire à manger.
Ouais, mais le principe, c'est qu'on va boire des shots.
Ouais, enfin, doucement quand même, c'est ça qui est pas...
Faites chauffer les poils, faites péter les garçons.
Les recettes pompettes. Première émission diffusée uniquement sur YouTube qui a reçu un avertissement du CSA il y a quelques jours. Là aussi, ça en dit long sur notre époque.
Oui, ça en dit long aussi sur les restrictions qui sont applicables à la télévision en matière de représentation de l'alcool. Et en fait, ce qui est très nouveau dans cette émission par rapport aux autres émissions gastronomiques où on voyait très bien les gens boire du vin, c'est qu'ici, on est vraiment dans un tout autre rapport à l'alcool. On est vraiment dans le binge drinking et pas du tout dans l'alcool bu par plaisir pour accompagner des plats. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'émission de recettes ici est totalement un prétexte. Faire la cuisine, c'est vraiment le fil rouge de l'émission, mais ce qui compte, c'est vraiment voilà, l'alcool et les entretiens avec les personnalités. Et donc, c'est ça qui fait que le CSA a considéré que c'était vraiment une incitation à la consommation et non pas la boisson comme plaisir pour accompagner un mets.
Vous avez regardé des heures et des heures d'archives pour écrire ce livre, Olivier Roger. Quelle est votre émission de cuisine préférée depuis les années 50?
Alors, mon émission de cuisine préférée, je dirais que c'est une courte émission qui était une Julie Cuisine.
Julie Andrieux?
Voilà, présentée par Julie Andrieux. C'était une émission qui a été diffusé à partir de 2004 sur TF1, et donc c'était un programme en fait publicitaire qui était sponsorisé par une marque d'électroménager. Donc ça peut paraître surprenant, mais ce qui était tout à fait nouveau, c'est qu'en fait cette émission était très inspirée du modèle anglo-saxon, les émissions de Nigella Lawson, si certains connaissent. Et donc c'est vraiment l'idée de faire la cuisine dans sa sphère intime, et raconter une histoire pendant qu'on fait la cuisine. Et aussi, comme cette émission était très courte, il y avait un montage qui était très intéressant avec des séquences très courtes, un travail sur l'image, sur le son, qui rendait tout cela très appétissant, et donc très plaisant à
le
regarder.
Le chef est aussi un outil publicitaire, vous le racontez bien dans votre livre. Alors Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest a encore fait un carton lundi soir sur M6, hein, 2 millions de téléspectateurs, c'est le meilleur score de la saison. Mais pour ceux qui frôlent l'indigestion de cuisine à la télé, vous rappelez dans votre livre qu'il y a eu des périodes, hein, dans l'histoire où la cuisine a disparu, donc c'est pas impossible qu'un jour cette mode de la cuisine à la télé disparaisse. La cuisine en spectacle, c'est aux éditions INA, et c'est signé Olivier Roger. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Très belle journée dans un instant. Tant grand bien vous fasse.